On doit croire qu'à la fin des temps, et peut-être plus tôt qu'on ne le pense, Dieu suscitera de grands hommes remplis du Saint-Esprit et de l'Esprit de Marie, par lesquels cette divine souveraine fera de grandes merveilles dans le monde pour y détruire tout péché et y établir le règne de Jésus-Christ, son Fils, sur celui du monde, de ce monde corrompu. C'est par cette dévotion et cette consécration à la très sainte Vierge que je ne fais qu'esquisser et amoindrir par ma faiblesse que ces saints des derniers temps viendront à bout de tout. Je vous rappelle que le titre de la retraite, le thème que vous avez lu il y a quelques mois, quelques semaines sur les programmes, c'est l'espérance, devient ce que tu es. Notre espérance, c'est l'adoption filiale. Notre espérance, c'est vivre de l'adoption filiale. Et le corps, je le répète sans cesse, le corps de Jésus n'a été saisi par l'adoption du filial divin qu'après sa mort. Donc je répète, je vous l'ai dit au moins 30 ou 40 fois, mais à force ça va. L'adoption filiale n'a pénétré substantiellement le corps de Jésus que après sa mort, dans sa mort et avant sa résurrection. Puisque le Fils unique, Dieu le Fils, était dans le Christ, dans l'incarnation, vivant par la médiation de la vision béatifique qui était au sommet de son intelligence humaine. Et lorsque l'intelligence humaine de Jésus a été arrachée du corps de Jésus par la mort, le Verbe de Dieu a donc saisi le corps mort de Jésus pour l'habiter substantiellement. La transsubstantiation à l'Eucharistie, c'est quoi? C'est le passage de l'état de vision du Seigneur dans son corps, au moment où il meurt. Il voit tout. Il est saint. Et il donne toute sa vie à la prise substantielle de son corps dans le Verbe, à la prise substantielle de son corps dans le Verbe. C'est une transsubstantiation. Avant sa mort, le corps de Jésus est vivant dans la vie de Jésus vivant et donnant sa vie. Effectivement, c'est pourquoi est-ce que c'est à la fois Dieu, il est à la fois Dieu et à la fois homme? Je vais très très lentement pour que vous puissiez vraiment bien bien saisir. Pourquoi il est à la fois Dieu et à la fois homme? Son corps humain est animé par la vie humaine, rempli de sainteté, et si Jésus, pendant ses 36 ans de vie terrestre et vivant, Et si c'est bien Dieu qui vit en lui, l'unité de Dieu vivant et de l'homme vivant dans le corps de Jésus vivant se fait grâce au sommet de son intelligence humaine qui est dans la vision béatifique. Se fait grâce au sommet de son intelligence humaine qui est dans la vision béatifique. Car Jésus est dans les visions béatifiques dès le premier instant de sa conception. Il voit le Père face à face, dans les sommets de son intelligence humaine. Mais l'intelligence humaine, c'est l'intelligence contemplative, c'est ce qui, dans notre intelligence, dépasse un peu le corps. Si bien que quand l'intelligence humaine de Jésus et l'âme humaine de Jésus est donnée à ce point que cette vie humaine de Jésus n'est plus là, dans son corps, puisqu'il est mort, son corps reste seul sans cette vie humaine. Et donc Dieu vivant va habiter le corps de Jésus directement, sans passer par la vision béatifique, dans son intelligence humaine qui est sortie. Et donc ce corps de Jésus devient le corps substantiellement du Verbe de Dieu, directement. C'est une transsubstantiation. C'est pour ça que dans la Saint Augustin dit que dans la transsubstantiation, c'est le corps nous est donné seulement à partir du corps cadavérique de Jésus. Nous ne recevons rien de la grâce surnaturelle. Jésus, de son incarnation jusqu'à sa mort, ne nous a obtenu aucune grâce surnaturelle. Toutes les grâces sacramentelles, eucharistiques, surnaturelles, toutes les impulsions surnaturelles qui emparent notre cœur lorsqu'on fait un acte d'espérance, Jésus ne les a pas données à partir de sa vie humaine pendant 36 ans. Il les a données seulement à partir de ce qui s'est passé dans son corps mort. Il n'y a plus de vie. C'est alors que le Fils est quand une vie plurielle, le Fils de Dieu est cette adoption filiale du corps de Jésus se fait, il est devenu, le corps de Jésus est devenu celui qui est. Et nous, c'est pareil. Donc pour nous, c'est pareil, quand on accepte de ne jamais s'arrêter. Je dis bien, jamais s'arrêter à ce qu'on vit. Jamais désirer ou s'appuyer en positif ou en négatif sur ce qu'on vit. Parce que quelquefois on vit des choses belles, quelquefois des choses forte, désagréable. Là, c'est dit, c'est désagréable. Le péché, c'est désagréable. et même les grâces de palpitation, de bonheur vivant, c'est encombrant, hein. Enfin, c'est encore moins pour celui qui aime Dieu. Pour celui qui n'aime pas Dieu, si longtemps que je n'ai pas eu, au moins 2 heures, je n'ai pas eu. Mais pour celui qui n'aime Dieu, non, c'est très encombrant. Donc, on ne s'appuie plus sur ce qu'on vit. On ne veut plus le vivre. Vraiment. On veut aller en dessous de tout ça. Je dis bien en dessous de tout ça. Vraiment complètement en dessous. Là où on ne vit vraiment plus rien. Et où on existe. Et c'est Dieu vivant qui vit. Comme Jésus, notre vie est partie, si je puis dire. Et notre centre de gravité se trouve dans notre mort. Notre centre de gravité se trouve dans notre corps à l'état de mort. C'est pour ça que, par exemple, il y a quelqu'un d'entre nous qui a un œil qui est vivant et un autre œil qui est mort. Bon, c'est merveilleux. Ça. C'est vraiment merveilleux. Il y en a d'autres, si vous voulez, qui voient mais qui leurs oreilles c'est mort, ils sont sourds. Il y a des choses qui sont vivantes en nous, dans notre corps, d'autres qui sont mortes. Ah. Eh bien, c'est formidable, figurez-vous. Parce que c'est à partir de ce qui est mort dans le corps qu'on glorifie, évidemment, substantiellement la présence de Dieu. Sans aucune médiation de vie humaine. Parce que dans le corps mort de Jésus, que le Verbe de Dieu a animé le salut du monde entier. Si je vis dans l'offrande et la gratitude, le bonheur, je dis, ah, enfin, au moins j'ai de la chance, parce que là, ici, je peux vivre d'un corps mort. J'ai établi mon centre de gravité pour qu'il n'y ait plus que la mort du Christ dans son corps, là. Et à ce moment-là, c'est l'adoption filiale. Ici, dans mon corps, je suis substantiellement fils de Dieu, enfant de Dieu. J'ai tout offert. Et j'entraîne toutes les autres parties vivantes de mon corps dans ce centre de gravité là. Lorsque j'ai une je vous le répète pour une troisième fois ce que je vais vous dire maintenant. Lorsque mais peut-être que je suis sûr qu'il y en a les trois quarts qui n'ont même pas entendu qu'on l'avait dit deux fois. Lorsque j'ai une très grande humiliation, et je dis bien très grande, que je ne m'y attends pas, une humiliation, ça nous arrive ça une fois ou deux dans la vie, à peu près. Sinon, c'est plein d'humiliations qui se succèdent. Mais une très grande humiliation. Ça s'intéresse à l'enfant Jésus qui dit ça. Quand j'ai une très... cinquième degré d'humilité. Vous vous rappelez quand on l'avait fait, cinquième degré d'humilité de Saint-Benoît. Lorsque j'ai une très grande humiliation, Eh bien, j'en profite quand elle est là, parce que c'est le moment du passage de Dieu qui m'est donné. Je saisis cet moment, je saisis cette occasion, ou je ne la saisis pas. Ça va conditionner pratiquement toute ma vie. Parce que c'est seulement dans cet instant-là que je peux décider de manière définitive et en obtenant la grâce définitivement et qui sera irrenversable, infailliblement. C'est là que je peux décider, à travers cette humiliation, de faire jaillir des désirs infinis, je dis bien infinis, de lumière et de splendeur. Et d'ailleurs, on sait très très bien, c'est seulement lorsqu'il y a ces moments d'humiliation très profonds que les désirs que Dieu donne la grâce, lorsqu'on le vit avec l'Immaculée Conception, avec le Verbe crucifié, je suis transformé en plaie vivante, que les désirs infinis de lumière et de splendeur du Verbe jaillissent de moi comme une fontaine infinie, éternelle. Et essayons de vivre ça dans des moments de petite humiliation, eh bien on ne pourra pas. On ne pourra jaillir des désirs très grands de lumière et d'amour et de splendeur, mais pas infinis. Il faut que l'humiliation atteigne, soit tellement fort que vraiment, on est vraiment transformé en légumes, et même pire que ça, à ce moment-là. Plus mort, tu meurs. Dans ces moments-là, hein? Et bien à ce moment-là, c'est si instinctivement, c'est un instinct d'espérance, si instinctivement, à ce moment-là, tu dis, ah merci Seigneur, enfin, enfin, enfin quel cadeau, enfin, me voici Seigneur. Et vous faites jaillir de là, dites, c'est des désirs infinis de lumière éternelle et d'amour. Ça y est. Vous êtes transsubstantié mystiquement dans la volonté du Fils. Et vous êtes devenu Fils de Dieu pour l'éternité. Et c'est seulement et uniquement dans ces états de pauvreté absolue qu'il y a la transsubstantiation mystique dans le Verbe, comme dit le Père Chardon, dans son livre admirable sur la croix de Jésus. Je serais désolé si certains d'entre vous ne l'avaient pas lu. Je pense que vous l'avez pratiquement tous lu, bien sûr, parce que c'est un très gros classique. Si on ne fait pas instinctivement, on supplie le bon Dieu de nous envoyer un jour une autre humiliation où ça devienne maintenant instinctif parce qu'on lui a demandé. Si c'est grâce là où l'instinct réagit de cette manière-là, d'accord, ça vient de Dieu. Et il ne le donne que si on le demande. Vous savez pourquoi on ne reçoit pas certaines grâces? C'est uniquement parce qu'on ne les a pas demandées à Dieu le Père. Seigneur, je te demande que dans la prochaine humiliation substantielle, cet instinct jaillisse libéralement, immédiatement, pauvrement, librement, totalement, intégralement. Et que, du coup, puisque je ne vivrai plus rien, que ce soit ce que je suis, en toi qui jaillit le Verbe de Dieu, source de toutes les lumières et de toutes les splendeurs. Voilà ce que je te demande, Seigneur. Je le demande vraiment en me consacrant totalement à Marie. Si je demande à Dieu mon Père, Seigneur mon Dieu, Seigneur Dieu mon Père, regarde, tu as à l'intérieur de toi quelqu'un tellement pauvre que c'est ton Fils bien-aimé qui porte toutes mes pauvretés. C'est Dieu le Fils qui est là et qui te demande d'être là après la parousie si, pour faire partie du monde nouveau. Il faut le demander. Parce que bon Dieu, il a besoin d'un certain nombre d'entre nous pour le monde nouveau. Hein. Il ne faut pas que tout le monde meure martyr. Hein. Il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns qui soient là pour être évidemment après dans un état de pauvreté. Dingue. Super magnifique, comme disait Petit Jean, c'est pas. Un état de pauvreté super magnifique. Hein? Mais grâce à qui le monde nouveau permettra à l'Immaculée Conception, à travers notre corps totalement offert, totalement pauvre, comme la faisait Marthe, de détruire définitivement le mal sur la terre. Parce que dans nos pauvretés substantielles, parce qu'il faut presque parler de pauvreté substantielle, vous voyez, c'est-à-dire quand on sera dans cet état de pauvreté, de pauvreté, de pauvreté, alors à ce moment-là, on aura cette grâce extraordinaire de pouvoir être saisi comme instrument et en même temps de pouvoir instinctivement nous offrir nous-mêmes tout entiers dans cet état, joyeusement. Et comme notre humanité totale sera offerte dans cet état, à travers cet état, Dieu pourra se servir de nous, envoyer ses anges pour détruire le mal. C'est pas nous qui détruirons le mal. Tandis que l'Antichrist, lui, il proposera une spiritualité pour recevoir toutes les forces de Dieu pour que nous puissions détruire le mal. Soyons assez forts pour détruire le mal. Tandis que ce que le Père veut, c'est que le corps de son Fils soit dans un état de totale pauvreté pour qu'il y ait la gloire du Père dans le corps humain, dans les cœurs humains. Et donc c'est bien la volonté du Père qui va être le signe de ce que du centre de gravité dans lequel on doit se trouver. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Bien sûr que de toute façon, il agit contre lui-même parce que du coup, il trompe tout le monde, il trompe Dieu. Il agit contre ce qu'il est, mais il agit pour ce qu'il vit. Tandis que nous agirons contre ce que nous vivons en étant ce que nous sommes. Nous sommes le fils du papa. Nous avons un papa et on est comme lui. On a la ressemblance du papa. On est pauvre, petit, souffrant, stigmatisé, entièrement une plaie vivante, morte, donc que Dieu peut utiliser à merci. Et c'est ça, les torrents de notre bonheur, dès cette terre. Et c'est vraiment là qu'on trouve les sources de notre bonheur de cette terre. Et si on ne vit pas ça, on n'est pas satisfait. C'est pour ça que Thérèse d'Avila disait que le mariage spirituel, dans la septième demeure, se caractérise par une soif insatiable de souffrir. Inaltérable. Parce que c'est dans ces moments où vraiment on est dans un état. C'est pas du masochisme, vous comprenez? C'est parce qu'elle a soif de ce bonheur éternel vécu dès cette terre. Ce qui ne peut être vécu qu'à travers cet état de pauvreté totale. Vous voyez, c'est pour ça que Marthe est vraiment un phare. Père Finet, n'hésitez pas à dire, c'était la plus grande sainte de tous les temps. Il le disait parce que Jésus le lui avait dit. Hein. C'est vraiment un phare, hein, parce que, vous voyez bien, nous, humainement, faites venir quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien, qui n'a pas l'habitude, etc. Il va voir Marc comme ça, il filme un légume. Un légume, recroquevillé comme ça. Le sang qui dégonne, enfin, J'ai dit, mais c'est pas possible de vivre comme ça. Débrancher les tuyaux. Mais enfin, monsieur, il n'y a pas de tuyaux. Ah bon, comment est-ce qu'on va faire? L'antéchrist, lui, dira, débrancher les tuyaux, hein. Automatiquement. C'est de l'acharnement, ça, il va dire. Pourquoi? Parce que pour l'antéchrist, la souffrance, l'absence de plénitude humaine, est insupportable. Donc, il vaut mieux supprimer un homme plutôt que de voir la souffrance en lui. Donc, si un enfant, dans le sein de sa mère, pourrait éventuellement souffrir plus tard, supprimons-le. Si quelqu'un souffre et qu'il ne peut plus avoir d'efficacité humaine, supprimons-le. Faisons cet acte de charité élémentaire. La suppression de la souffrance, la haine radicale de la croix, et même du signe glorieux de la croix, est la signature de l'Antichrist. Oh, là, je crie assez fort. Tandis que l'amour de Jésus crucifié, c'est la signature de Marie. C'est pour ça, vous voyez, souvent on dit la consécration à Marie de Saint-Louis, Marie Grignon de Montfort. N'est-ce pas? Je ne sais pas, vous me confirmerez, frère Gabriel, frère André, frère Étienne. Parce que, on dit, bon, je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, etc. Hein? Bon. Mais attention, Saint-Louis-Marie de Montfort, sauf erreur de ma part, il dit d'abord, je renouvelle les promesses de mon baptême. Je renonce à Satan, à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions. Et surtout, je m'attache à Jésus-Christ crucifié pour toujours. C'est pourquoi je vous choisis. C'est pour ça que d'enlever cette première partie, à mon avis, c'est dégueulasse. Parce que ça enlève la signification de la consécration à Marie. Je crois. Hein. Et il faut le comprendre. D'ailleurs, regardez Saint-Louis-Marie de Montfort, Sagesse de la Croix. Là, il faut prendre toutes les œuvres de Montfort. Les trois frères qui sont ici, vous avez bien vu, ils en vivent depuis 50 ans, 60 ans. Vous voyez bien qu'ils sont dans un état de mort et c'est des saints. Ça se voit tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient burinés par la grâce de Dieu. Cette consécration à Marie tous les jours, ils ont dit, je renouvelle les... c'est pas des faux. Vous touchez, hein, c'est des reliques, hein, c'est les vrais. C'est pas des guignols. C'est pas des séducteurs. Ils ont fait toute leur vie, pauvrement, tout ce que Marie a voulu. Des instruments, quoi, ils sont donnés. Ça brille pas. Ça brille pas. Aux yeux de l'Antichrist, ça brille pas. Pas terrible. C'est vrai. C'est pour ça que je vous le signale, sinon si c'était dedans. Donc, je renouvelle les promesses de mon baptême. Le baptême fait que, vous savez qu'est-ce que c'est que le baptême? Il y a cinq effets, mais l'effet principal du baptême, c'est pourquoi on appelle ça un baptême. C'est quoi l'effet principal? Je dis bien principal du baptême, c'est pourquoi, non. D'être enfant de Dieu, non. Quel est l'effet principal du baptême? Non, ce n'est pas de renoncer à Satan, l'effet principal du baptême. Non, ce n'est pas l'Esprit Saint qui est l'effet principal. Non, ce n'est pas d'être lavé du péché, l'effet principal du baptême. Non, ce n'est pas l'exorcisme. Hein? Non, ce n'est pas d'être prophète et roi. Ah là, c'est pas vrai, les cathos. Ah, les cathos branchés, hein. Oh là. Baptême, baptizo, être plongé, c'est le corps, la chair, le corps, par le corps, nous sommes plongés, incorporés, donc c'est le corps, incorporé, c'est le corps qui est plongé, baptizo, englouti dans le corps mort et ressuscité du Christ. Ça veut dire que notre corps, non pas quant à sa vie humaine, mais quant à sa corporalité substantielle, si je puis dire, bon, qui est incorporé, plongé dans le corps mort du Christ, pas dans le corps, dans sa vie humaine, sur la terre, mais dans le corps mort. Et ressuscité du Christ par le baptême, substantiellement, le Verbe de Dieu qui anime le corps de Jésus mort, et notre corps est plongé dans ce corps, et donc si je vis plus rien, je touche dans mon corps ce qui est animé directement par le Verbe de Dieu, sans la médiation de la vie, alors je peux dire que je touche en moi l'être, non seulement temporel, mais aussi éternel du Verbe de Dieu. Et si ce n'est pas par la croix que je vis, je ne peux pas le vivre. Et l'Antéchrist, pourquoi est-ce qu'il va nous faire tomber facilement? Parce qu'il aura tout, je dis bien, tout pouvoir pour vivre de toutes les manifestations vitales que le Christ a déposées dans le monde par sa vie. Donné, mais il ne vivra pas de la substance du don du Père qui veut nous donner son Fils pour que nous devenions fils jusque dans notre chair. Et donc si on s'appuie uniquement sur ce qu'on vit, même au niveau de la sainteté, on sera séduit. Je dis bien, on sera, je parle au futur, vous voyez, je parle au futur, exprès, parce que l'Antichrist, comme le dit saint Paul, n'est toujours pas là. Hein? Bon, allez, il faut vraiment deux... Oh là là là... Oh, les cathos. On est des petits, ça ne vous empêche pas de lire la Bible, hein. Ça, c'est aucune excuse, là. Les petits, ils lisent la Bible, hein. On est petits. Ah. Moi, je trouve ça, j'aime beaucoup. Hein. Lisez hein, quand même l'Épître aux Thessaloniciens. Hein. C'est tellement beau. Hein, ne vous laissez pas troubler par ceux qui disent le voici, il est là, etc. Son avènement est proche. Mais non! L'homme d'iniquité ne s'est pas encore manifesté, et l'abomination de la désolation non plus. Alors, l'apostasie non plus, hein? Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Bon, vous lirez ça là-dedans, hein? Bon, moi je veux bien vous parler de l'apostasie, bon, parce que, si vous voulez, parce que je reconnais qu'il faut des repères historiques, un petit peu, hein?
Moi, je vous tiens à ce que je... Un signe historique, ça, lui, il rassemble les signes historiques dans le premier chapitre. Bon, moi, je peux vous donner les signes historiques, disons, 100 ans plus tard. Jésus, il dit, quand il est dans le temple, il dit, bon, de Jérusalem, il dit, détruisez ce temple, je le lève en 3 jours. Comment ça? Il a fallu 47 ans pour le construire. Et toi, en 3 jours, tu le relèves. Mais il dit, mais ce temple, c'est mon corps. Saint Jean qui dit bien, le temple, c'est mon corps. Donc quand on parle du temple, c'est le corps de l'homme. C'est le corps du Fils de l'homme. Et l'apostasie, l'abomination de la désolation, explicité dans le livre de Daniel à propos de l'Antichrist, abomination de la désolation, c'est quoi? C'est quand, dans le temple, il y a la fameuse abomination de la désolation. C'est-à-dire qu'on remplace, ou on se met à la place de Dieu, dans le lieu où Dieu anime le temple de Jérusalem, c'est-à-dire le Saint des Saints. D'accord? Bon. Et bien, dans le corps du Fils de l'homme, c'est-à-dire dans le corps de l'homme, c'est quoi l'abomination de la désolation? À quel moment, dans quel lieu de notre corps, Dieu est-il agissant directement et lui seul? C'est dans le génome, dans la première cellule. Février 1998. Le génome de l'homme. Ah, une dignité anthropologique qui trouve son fondement dans l'âme spirituelle qui vivifie et imprègne ce génome. C'est là que le Saint des Saints du Dieu de l'univers, le Verbe de Dieu illuminant tout homme au moment où il vient à exister dans ce monde, est présent dans le corps de l'homme de manière vivifiante et immédiate. Immédiate et directe. Et donc on est arrivé aujourd'hui dans notre civilisation. Ça, c'est un signe très intéressant. Pour le philosophe, c'est très intéressant. Où l'homme se croit non seulement capable, mais en droit. Le clonage. En droit de prendre une cellule, de fabriquer un génome et le faire partir pour faire un corps humain tout entier. Et donc il se place sans l'enracinement dans l'amour de l'homme et de la femme, uniquement par l'efficacité. Et donc il place l'obligation au Créateur de créer une âme spirituelle dans un génome qui ne vient pas de l'amour et de l'unité spontale, même s'il n'y a pas d'amour, au moins de l'unité conjugale entre un homme et une femme. Et ça, Dieu ne pourra pas le supporter. Le corps de l'homme est placé Dieu Et le faire quand même, c'est déchaîner la colère de Dieu. Et on y est. On ne peut pas dire ce sera dans un siècle, dans deux siècles. Alors quand même, on le sait très bien qu'il y en a qui tentent de le faire. Donc peut-être dans quelques semaines, il y en a un qui va y arriver. Voilà. Pas besoin de mettre un réveil. On y est. C'est ça l'abomination de la désolation. Jésus le dit bien, attention, c'est le corps du Fils de l'homme. C'est un signe, j'aurais pu m'amuser à vous donner une petite quinzaine comme ça. Je dis que c'est vraiment maintenant, quoi. C'est des signes, c'est seulement des signes. Vous voyez ? Des petits signes. Qui sont très, très intéressants et qui nous montrent où se situe le lieu du combat. Le lieu du combat, vous voyez, comme c'est le corps à ce niveau de la toute petitesse. Et retrouver notre corps dans ce niveau de toute petitesse où Dieu est saint des saints dans notre corps, vous voyez ? Parce que finalement, devenir, retrouver l'esprit d'enfance grâce à Jésus, grâce à Marie, grâce à Sainte Thérèse, grâce à Marthe, quand on était dans les temps embryonnaires, c'est merveilleux quand on était dans les temps embryonnaires, regardez. Temps embryonnaires, tu es dans le sein de la Sainte Vierge, dans le sein de ma maman, océan d'Immaculée Conception, océan de grâce. Et puis, j'étais là, j'allais du côté de Joseph, et puis du côté de... Oh, qu'est-ce qu'on est bien, retrouver cet état, faire oraison comme ça, c'est pas mal, hein. Mais c'est cause seconde. Pas encore cause instrumentale. Il faut un esprit d'enfance encore plus enfance que ça. Et descendre. Et au 18e jour, encore mieux. 18e jour, j'aime bien le 18e jour. Vous savez pourquoi ? Parce que le 18e jour, c'est une espèce de d'enveloppe de cellulaire endomorphique, de cellules endométriques. Et puis, il y a un organe qui s'est formé au milieu, qui est gros comme ça. Et puis, un petit amas cellulaire autour, c'est le cœur. Le premier organe, 18e jour. La première chose qui se forme, c'est le cœur. Et puis, il bat à peu près 7 fois, 7-8 fois plus vite que notre cœur actuel. Ce que retrouve la musique techno aujourd'hui. Mais ça, c'est pas... vive l'oraison comme ça, en étant seulement que un cœur, c'est tout. Un cœur de tout petit au petit, 18e jour, qui est enveloppé, imbibé, imprégné de l'Immaculée Conception dans son sein. Physiquement, quoi, physiquement, attention, hein, physiquement, hein, mais vivant. Notre cœur bat, là, ça. C'est beau, ça, c'est de l'esprit d'enfance, ça. C'est pas assez. On n'y est pas. On n'est pas encore dans notre corps originel. On n'est pas encore dans notre corps lié au Père. Là, on est encore dans le sein de la mère. Il faut que notre maman nous amène jusqu'à papa. Et que Marie nous amène jusqu'à papa. Et on descend dans l'esprit d'enfance, on revient, on arrive jusqu'à être en contact avec papa. Papa, c'est la première cellule. Papa Dieu, hein. Papa Dieu, Père Créateur, hein. Papa Joseph. Pour l'instant, encore plus fort après la parousie, ce sera papa Joseph, l'unité responsable de la femme et de Marie Joseph. Mais jusqu'à papa, Dieu créateur dans ma première cellule, regardez l'état de la première cellule, l'état dans lequel vous êtes, nous sommes au point de vue liberté dans la première cellule. Hein? Notre corps, vous savez, c'est juste des petits échanges moléculaires entre le noyau et le cytoplasme. Donc vous voyez bien, toute la machinerie cytoplasmique, c'est biologique. Il y a des phénomènes biologiques, chimiques, physico-chimiques, et toute une machinerie qui se fait que... Bon, il y a une vie quand même, c'est vrai, il y a une certaine vie très 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 élémentaire, mais enfin vraiment, on ne l'aperçoit pas. Hein. On ne peut pas l'apercevoir. Mais, bon, ça se perçoit par un certain type de dilatation, quoi, c'est tout. Pas plus. Regardez l'état dans lequel on était, au point de vue capacité de faire du bien, convaincre les gens, convertir son cousin Germain ou son patron et arriver à convaincre son mari, etc. Regardez l'état de puissance dans lequel vous êtes dans ce cas-là, n'est-ce pas ? Pour trouver cet état. Cet état tout simple, tout petit, tout pauvre, où c'est Dieu qui est en train de vous faire exister dès au départ. Avant, vous n'existiez pas. Vous commencez d'exister dans le corps. Là, le Père est là. Le Père créateur est là. Papa, mon papa créateur est dans mon corps là. Là, je trouve ici le lieu où mon corps peut être spiritualisé. Et ce lieu-là, il est présent en moi 700 milliards de fois, puisque à ce moment, j'ai 700 milliards de cellules. C'est pour ça. Et ces cellules, elles meurent et elles se remplacent les unes les autres. Je vous signale, ça c'est biologique, ça. Hein. Elles se remplacent les unes les autres. Il y en a qui meurent, il y en a qui ne meurent pas. Celles qui refusent de mourir, ça fait un cancer. Les cellules qui refusent de mourir, elles se rassemblent les unes avec les autres, ça fait une tumeur. Une tumeur, c'est un ensemble de cellules qui refusent de mourir. Bon, enfin bref, il y en a qui meurent et qui devraient mourir. Bon, enfin, donc refuser la mort, vous voyez, ça produit le cancer. Le cancer, c'est un signe aujourd'hui. Les hommes ne veulent pas mourir. Ils n'acceptent pas la croix. Résultat, c'est le cancer. Alors que la croix fait vivre l'homme. La croix, c'est la vie humaine qui commence. C'est l'existence, deviens ce que tu es, homme, en vivant de la croix. Ne vis plus, c'est la croix qui fait que tu existes vraiment en tant qu'homme. Deviens ce que tu es. Tu es prédestiné à être fils. Oui, parce que là, donc ces cellules se multiplient, il y en a d'autres qui meurent, sont remplacées. Et vous savez qu'il faut 10 ans, pour l'ensemble de vos cellules, de votre poids cellulaire, d'être remplacé totalement dans 10 ans, pratiquement. Alors, actuellement, vous avez des cellules qui sont en vous. Il y a 10 ans, c'est celles qui sont... Votre corps est dans l'état dans lequel vous avez mis votre corps spirituellement depuis 10 ans. C'est pour ça que l'Église ne canonise les saints. C'est à cause de ça hein, que l'Église, s'il y a d'autres raisons, ne canonise les saints qu'en regardant les 10 dernières années de leur vie. Donc s'il y a une seule faute repérable, mais la moindre, dans une des 10 dernières années de leur vie, on ne canonise pas. Vous saviez ça? Bon, ben vous savez... S'il a fait une faute, il est 15 ans avant sa mort, ça va. C'est pas ça qu'on regarde. Parce qu'on a le droit de se convertir quand même, puis devenir un saint pour toute l'Église. Hein. Comme dirait Alban Larron, c'était avant la mort du Christ, il est mort avant lui. C'était pas pareil. Alors vous me direz, il y a des saints innocents. Ah, ils sont morts en prison. Ils sont morts dans l'innocence. Ils sont morts parce que les femmes enceintes. Et les enfants qui étaient tout petits, 6 mois, 1 an, etc. C'est pas pareil. Dans un corps originel, voyez, il n'y a pas de péché personnel. Donc l'Église canonise les saints innocents, parce qu'ils sont morts pour le Christ. Mais sinon, on canonise pas. Hein. C'est pour ça que l'Église a tellement de mal à canoniser, par exemple, un enfant de moins de 10 ans. Ça, vous ne verrez pas. Mais ce n'est pas la seule raison, hein, parce qu'il y a aussi la question de l'âge de raison, etc. Bon, bref. Donc c'est pour comprendre où est-ce que, dans notre corps, puisqu'il s'agit du corps, quand on est crucifié, que vraiment au niveau de notre vie, psychologiquement, on ne vit plus rien. Spirituellement, on ne vit plus rien. Charismatiquement, le Seigneur ne donne plus rien. Mystico-dingoment, plus rien. Il ne reste plus rien, quoi. Il ne reste plus rien. On est persécuté, en plus humilié, tout le monde mettait une secte, t'es vraiment fou. Il n'y a plus rien, quoi. Plus rien, tu vis plus rien, plus personne ne te fait confiance, tu es dans un état d'inhibition absolue. Alors ça, c'est le cadeau, ça. C'est le cadeau, c'est le clin d'œil de Dieu, ça. On a été choisi. Parce que dans cet état où notre vie... Alors évidemment, si bon Dieu permet que notre vie soit complètement morte à cause des circonstances, etc., c'est un cadeau. C'est vrai. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre. Il faut vivre. Parce qu'on disait, Marthe, vous voyez, elle ne vivait plus, elle ne mangeait plus, plus rien. Donc du coup, alors ne mangeons plus, ne buvons plus. Non. Marthe, si jamais... Elle aurait pu manger, elle a dit, je vous assure qu'elle mangerait. Hein. Mais elle était contente d'être dans un état où elle ne mangeait plus. Tu vois, un aveugle, si le bon Dieu guérit, il lui donne des yeux pour voir, il regardera les choses, il ne va pas crever vite ses yeux pour retrouver la grâce qu'il avait quand il était aveugle. Évidemment. Mais si il est aveugle, s'il devient aveugle, il est très heureux. Parce qu'il sait que c'est là. Que il attire la grâce suprême. Bon Dieu ne nous donnera pas des grâces à partir de nos vertus, en disant c'est formidable, j'ai une chasteté. La moindre tentation ne m'effleure pas, pas la moindre fibre de tentation de ce côté-là. Une pureté, je suis immaculé de ce côté-là, ça, bon Dieu me fait une grâce. Quel bonheur. Merci Seigneur, encore Seigneur, c'est ça que je veux. Et si d'un seul coup, au bout de 10 ans comme ça, paf, d'un seul coup, des torrents tonitruants de fantasmes de dégoûtants irrésistibles de saisies de l'intérieur, eh bien alléluia, c'est une grâce beaucoup plus grande que celle de la chasteté infuse, parce qu'alors je ne peux plus m'appuyer sur mes vertus. Et je ne peux m'appuyer que sur la croix de Jésus. Et lutter en acceptant d'être mort. C'est vrai, c'est une grâce beaucoup plus grande. C'est un jour, le père Emmanuel disait ça à un prêtre qui était venu le voir, je ne dirais pas son nom parce qu'il est encore vivant. Il dit, mon père, c'est formidable, moi, pendant toute ma vie, quoi, depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 45 ans, 42 ans à peu près, pas l'ombre d'un problème au niveau de la pureté, de la pureté. Pas l'ombre, vraiment, formidable. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Hein. Alors là, vraiment, limpide. Hein. Chasteté infuse, il n'a fait aucun effort, ça lui est donné, comme ça, gratis. Formidable, c'est une grâce. Du coup, il va au séminaire, il est prêtre, il fait ordonner, il dit la messe, je dis pas, il ne faut pas que j'en dise trop, sinon... il est ordonné, prêtre dans une paroisse, diocésain, tout ça, c'est pour vous dire, c'est pas moi. Moi, j'ai eu plein de tentations. mais j'ai gardé ma virginité, hein, par pure grâce de Dieu, je l'avoue. Hein. Mais j'ai gardé ma virginité quand même. Bon, c'est une grâce du bon Dieu, je vous remercie. Bon, mais ça... Donc, et puis... d'un seul coup... d'un seul coup,
il regarde, il découvre qu'il y a des, il découvre des attractions irrésistibles.
La chasteté en plus lui est retirée d'un seul coup, d'un seul coup. Et il se retrouve face à ce monde où toutes ces tentations sont là, l'état total.
Alors vous, tu feras le père Emmanuel, tu dis, qu'est-ce qui s'en arrive ?
Eh ben écoute mon vieux, je vais te dire, tu as reçu des grâces de chasteté d'infus pour te préserver, c'est déjà une grâce du bon Dieu, ça c'est certain. Non mais ça c'est évident, il faut remercier le bon Dieu de ça. Mais maintenant, il te retire, mais c'est une grâce beaucoup plus grande, c'est une grâce nouvelle, incomparable. Incomparablement plus grande. Parce que maintenant, tu peux lutter avec la grâce, avec la charité, par pur amour de Dieu. Et comme ça, au ciel, tu auras la gloire de ceux qui sont des saints dans la virginité.
Tandis que s'il avait gardé sa grâce infuse de chasteté sans jamais pécher, au ciel, aucune gloire de la virginité pour lui. Il n'a pas lutté. Il n'a pas été crucifié. Il n'a pas lutté spirituellement. Donc il n'a pas fait des actes d'amour pur. Glorifier Dieu dans une chasteté héroïque et arracher incessamment par pur amour de Dieu toutes ces, en ne mettant jamais aucune connivence, aucune complicité, aucun acte intérieur, je veux dire, ou ni extérieur évidemment. Alors à ce moment-là, c'est formidable, à ce moment-là, vous vous rendez compte, tout l'amour, alors c'est par charité, à ce moment-là, c'est la charité, vraiment, qui est... qui. Et du coup, voilà, sur le plan surnaturel, alors évidemment, ce qu'il vit, beaucoup moins agréable, il a l'impression qu'il vit à l'intérieur tout le péché d'envahi, quoi, dans sa vie, mais dans sa sainteté, c'est autre chose, c'est sa sainteté qui commence, dans son corps. Qu'est-ce qu'un Antichrist, lui ? En vérité, je vous le dis, il vous donnera facilement la grâce de la chasteté infuse, sans effort. Il n'aurait plus à lutter. Par les énergies et par les voies métapsychiques, christiques. Tandis que si c'est dans la lutte, de même nous continuons.